Donc, oui, c'est vrai qu'on se connaît plusieurs en tout cas, parce que j'ai eu l'occasion de prêcher avec beaucoup de plaisir plusieurs fois à l'église de Saint-Maur. Et le secret que vous ne connaissez pas, c'est que Laura et Esther travaillent avec mon fils. Oui. Et donc, je ne sais pas si elles sont censées donner un rapport après. Non. Non, mais bon, c'est par hasard que j'ai appris qu'il savait même que vous lui avez dit peut-être que... Bon, d'accord. Enfin, le sujet qui nous a été donné est tellement vaste que essayer de traiter ça dans 3 messages d'environ 45 minutes est une gageure. La croissance spirituelle. J'ai déjà prêché sur ce sujet 7-8 messages, une série, donc, et puis même cela n'était pas suffisant pour vraiment couvrir tout le sujet. J'aimerais qu'on lise dans la Bible du Semeur, je lis, bon, moi je lis dans la Bible du Semeur, version 2015, quelques versets de d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Non, mais c'est vrai que Laura a dit que je devrais me présenter un petit peu. Bon. Vous avez déjà détecté l'accent qui est originaire d'outre-Atlantique, les États-Unis, dans mon cas, l'État du Massachusetts. Alors, difficile, vous pouvez prononcer ça? Massachusetts. Bon. Alors, donc, vous voyez... Pourquoi le chinois est difficile pour moi? Parce que j'ai grandi en prononçant des noms comme ça. Joyce, par contre, est du Colorado, donc au pied des Rocheuses. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés, au début des années 60. Et après, vraiment un vrai coup d'escargot, nous avons décidé de nous marier. Le Seigneur nous avait dirigé pour venir en France. Et nous sommes arrivés le 3 février 1965, oui, par bateau. Et nous sommes citoyens français depuis un certain nombre d'années aussi. Ma grosse déception en acceptant la nationalité française, c'est que je n'ai pas perdu mon accent. Alors, vous allez devoir le supporter. Donc, j'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous de comprendre. Si vous avez du mal à me comprendre, merci de me le dire et j'essaierai de... Enfin, je prierai que le Saint-Esprit m'enlève cet accent, mais ça a déjà été fait et jusqu'à maintenant, il a dit non. Mais certains d'entre vous, vous avez un accent aussi, n'est-ce pas? Bon, bien, donc, on est entre amis. Donc, nous avons travaillé au nord de Paris pour l'ancienne église à Villiers-le-Bel, jusqu'à 1988, 2 enfants sont nés, donc Stephen en 67 et Elizabeth en 70. Elizabeth et son mari Clive Morton sont actifs avec leur famille dans l'église de Farmoutier, près de Coulommiers. Stephen, donc, est au sel avec nos amis, donc, comme j'ai mentionné. Et à partir de 89, nous habitons Logne, Paris-Est. Et il y a de bons gens, hein, les Lognois, hein, ils sont formidables. Là. Mais à ce moment-là, donc, je préférais pas ne pas démarrer une autre église. Donc, quand on ne peut pas démarrer une église, en général, on vous monte en grade parce que vous ne pouvez pas faire autre chose. Et j'étais responsable de la mission, de 3 missions, au fait. Mission baptiste américaine, canadienne et irlandaise. Et l'œuvre a progressé. Nous avons vu une quinzaine d'églises fondées dans Paris-Est et Marne-la-Vallée depuis, je dirais, les années 70. Et maintenant, toutes nos églises font partie de l'association baptiste. Et depuis la retraite que j'ai prise en début 2003, Joyce et moi sommes itinérants pour l'association baptiste, mais rattachés à l'église d'Esplie, derrière Marne-la-Vallée. Pardon, Disneyland, c'est dans Marne-la-Vallée, mais derrière Disneyland, une église d'une soixantaine de personnes, une belle église, beaucoup d'amour, bon accueil, venez nous rendre visite, vous verrez. Et donc, nous essayons aussi de servir le Seigneur au sein de cette église et aussi dans quelques expéditions un peu plus loin en France pour s'occuper des églises de l'association baptiste. Donc, on n'est pas jeune, mais j'espère qu'on n'est pas trop vieux non plus. Marié depuis 54 ans, donc... Non, mais il faut vraiment applaudir ma femme d'avoir survécu à ses 54 ans, parce que ce n'est pas évident. Elle a épousé un perfectionniste qui avait pas mal de nœuds dans son fil de yo-yo. Donc, si vous avez compris, non, mais ça se dit pas, ça se traduit pas bien. Hein. Vous savez ce que c'est un yo-yo? Vous savez ce que c'est quand il y a des nœuds dans le fil? Bon, voilà. Et Joyce a essayé, avec l'aide du Seigneur, à défaire ces nœuds. Et puis, comme on a dit à Clément et Tatiana, c'est les 25 premières années qui étaient les plus difficiles. Donc, mais ça va maintenant. Donc, Dieu est bon. Alors, nous allons donc, ce matin, voir un bref aperçu de la croissance vers la maturité spirituelle. Tout à l'heure, cet après-midi, nous aborderons un certain nombre d'obstacles et de défis pour croître et parvenir à la maturité en Christ. Et demain, comment reconnaître et vivre la croissance en Christ et la maturité que nous avons en lui. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Donc, Paul dit que c'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, à d'autres comme prophètes, à d'autres encore comme prédicateurs de l'Évangile, et encore d'autres comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes, est-ce qu'on ose dire, et de ces femmes, pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir le service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, et c'est un verset clé, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, spirituellement parlant, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des enfants, de petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Alors, merci d'hommes habiles à entraîner d'autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps en tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père Céleste, c'est un défi que nous vivons ce week-end d'essayer de cerner ce que c'est que la croissance spirituelle, les obstacles à y parvenir et comment vraiment développer cette croissance et reconnaître le progrès, la croissance en toi. Je te prie, Seigneur, afin que tu m'aides. Tu sais que j'ai passé pas mal de temps à préparer ces messages. Mais sans l'aide de ton esprit, Seigneur, ce sera rien. Et vraiment, je prie que aujourd'hui, ce week-end, je sois complètement à la disposition de ton esprit pour apporter ces messages que nous allons donc regarder ensemble. Et que chacun ici, je ne connais pas la situation personnelle de tous ceux qui sont devant moi, mais toi, tu le connais. tu connais leur situation. Et je prie, Seigneur, afin que tu parles à chacun selon son besoin. Et que par le miracle de ton esprit, tu appliques cette parole à chacun là où il est, elle est, afin que tous nous puissions profiter de ces moments ensemble. Seigneur, je compte vraiment sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Encore, je lis le verset 13 d'Éphésiens 4. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et je voudrais lire aussi un autre verset, cette fois-ci dans la colombe, car en Christ, c'est Colossiens 2, 9 et 10, c'est un verset qui m'a beaucoup parlé dans ma jeunesse et ma vie de jeune adulte, et encore aujourd'hui, mais ça m'a particulièrement frappé quand j'avais besoin de démarrer une croissance en Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2, versets 9 et 10. Pendant ce week-end, je voudrais aborder l'une des choses les plus normales, les plus naturelles, les plus essentielles que nous trouvons dans toute la création de Dieu, et c'est la croissance. Normale, naturelle, essentielle. Pourquoi est-ce que la croissance est normale et naturelle? Parce que Dieu nous a créés avec l'intention que l'être humain progresse par la croissance à une vraie maturité. Nous savons que quand un enfant est né, et nous en avons eu deux, nous souhaitions que cette naissance puisse se développer vers une véritable maturité. Si vous voyez mon fils, il fait 1m93, donc on dirait qu'il s'est bien développé, mais j'espère que les qualités se sont développées aussi. Notre petit-fils, le fils de mon fils, il n'arrive pas tout à fait à 1m90 peut-être, mais enfin. Mais c'est normal, la croissance. Ça fait partie de notre vie. Et s'il n'y a pas une croissance quand un nouveau-né arrive, alors, bien sûr, c'est un grand sujet d'inquiétude pour les parents. Parce que Dieu nous a créés avec l'intention que l'être humain progresse par la croissance à une maturité, je dirais, spirituelle. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils meurent. Il les a créés pour qu'ils vivent. Et c'est ce que nous lisons, je ne vais pas... Je peux mettre mes notes à votre disposition si vous me donnez votre... je ne sais pas s'il y a une feuille disponible pour les adresses e-mail, mais je peux vous envoyer parce qu'il y a des versets que je ne vais pas lire, ça fait trop, mais dans Genèse 2 et Genèse 3, nous voyons que la volonté de Dieu, c'était que l'homme vive. Et si Adam et Ève ont été créés physiquement adultes, ce sont les seuls d'ailleurs, qui ont été créés physiquement adultes, Dieu voulait qu'ils vivent une croissance parce qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Physiquement, peut-être, mais à tout point de vue, ils n'étaient pas mûrs. Mais Dieu voulait qu'ils arrivent à une maturité spirituelle, sociale et psychique, comme aussi sur le plan de l'intelligence, des sentiments et de la volonté. Cette croissance devait se réaliser au fur et à mesure que leur relation avec lui, Dieu, se développait. Ils avaient tant à découvrir sur eux-mêmes. J'aime beaucoup ce passage où Dieu présente Ève à Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il dit? Traduction Dixon, oh là là, là ça c'est formidable, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et il l'a trouvée belle. J'aimerais bien savoir comment elle était, Ève, hein? Créée par Dieu, donc de la côte d'Adam, n'est-ce pas? Mais ils étaient créés là Mais ils devraient se connaître. Ils ne se connaissaient pas encore. Et ils allaient passer l'éternité à se connaître seulement. Bon, ça n'a pas marché comme le plan de Dieu avait, que Dieu avait voulu. Et cette croissance devait se réaliser au fur et à mesure que leur relation avec Dieu se développait. Ils avaient tant à découvrir sur eux-mêmes, sur l'autre et sur la création autour d'eux et sur Dieu. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre sur Dieu. Et dans le plan de Dieu, cette découverte devait être passionnante. Et je dois dire que malgré donc les quelques difficultés que j'ai mentionnées, que Joyce et moi avons traversées, cette découverte a été, et elle est toujours, passionnante. Nous nous aimons, et ça ne s'arrête pas. Et c'est une grâce de Dieu, mais c'est à la portée de tous ceux qui voudraient vivre selon la volonté de Dieu. Donc, pendant nos deux jours ensemble, je voudrais que nous parlions de la croissance vers la maturité spirituelle et de la plénitude en Christ que Dieu désire tant pour son enfant. Et je voudrais que nos études soient vraiment pratiques. Et si vous voyez que je suis en train de devenir trop théologique, en général, ce n'est pas mon genre. Hein? Donc, je n'ai pas assez d'intelligence pour être un théologien. Donc ça reste, j'espère que ça restera assez pratique. Mon désir est que chacun, dans sa situation unique et particulière, puisse comprendre et assimiler ce que c'est que la joie d'avoir une relation de plus en plus profonde avec Dieu. J'ai reçu Jésus dans ma vie à 9 ans. Et cela fait maintenant 72 ans. Oui, j'ai 81 ans, je vous évite le calcul. Donc, ça fait 72 ans maintenant que je suis en train de connaître Dieu et d'approfondir la relation. Et ça ne s'arrête pas. Donc, mais chacun dans sa situation unique et particulière puisse comprendre et assimiler la joie d'avoir une relation de plus en plus profonde avec Dieu, de croître vers une véritable maturité en Christ et d'être rempli de cette plénitude. Je crois qu'il n'y a pas de pendule dans la salle. Je vais enlever ma montre, mais ce n'est pas une garantie. Bon, enfin, voilà. D'abord, que voulons-nous dire par la croissance vers la maturité spirituelle et la plénitude d'une vie remplie de Christ? Tout d'abord, la maturité en Christ n'est pas la perfection. Vous visez la perfection, mais vous n'y arriverez pas sur terre. Éphésiens 4:13 implique la croissance et non la perfection. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Il ne dit pas que nous devenons parfaits. C'est pour plus tard, quand nous serons avec le Seigneur. C'est une croissance vers une véritable piété. Je préfère le mot en anglais, excusez-moi. Vous savez ce que c'est que le mot anglais pour piété? Ça, je sais pas. C'est le mot godliness. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être comme Dieu. La piété, c'est être comme Dieu. Godliness. Vous avez compris? Oui. Vous avez déjà entendu ce mot? Bon, d'accord. La maturité spirituelle est donc être comme Jésus-Christ. C'est ça que nous visons, d'après ce verset. Ce n'est pas non plus le fait de posséder des dons spirituels, surtout ceux qui attirent l'attention. Il y a des gens qui disent « Oh, j'aimerais avoir ce don spirituel pour que les gens disent que je suis formidable. » Bon, mais c'est une motivation absolument épouvantable. Non, tous nous avons un don spirituel et nous devons mettre ce don spirituel au service de Dieu, au sein de l'Église. Dans 1 Timothée 3 et Tite, chapitre 1er, Paul précise les exigences pour nommer les responsables de l'Église. Ce sont des hommes et des femmes qui sont censés être mûrs en Christ. Et dans les exigences pour nommer les responsables, 19 des 20 exigences traitent du caractère spirituel du responsable, sa réputation, sa déontologie, sa moralité, son tempérament ou sa disposition, ses habitudes et le développement psychologique et spirituel de l'homme ou la femme de Dieu. Et ces qualités sont une sorte de barème de la croissance et du niveau de maturité de chacun. En résumé, pour moi, arriver à la maturité et à la plénitude en Christ veut dire tout simplement ressembler à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ici peut dire « Moi, je ressemble à Jésus-Christ » Je pense que, pour être honnête, tous nous devrions dire « Pas encore », mais j'espère que c'est votre but. Ressembler à Jésus-Christ, c'est la croissance continue et régulière de notre caractère spirituel qui fait que nous ressemblons de plus en plus à Christ. C'est ça le but, c'est ça la croissance. C'est de plus en plus, jour après jour, ressembler davantage à Jésus-Christ. Juste quelques considérations importantes avant d'aller plus loin. Comme j'ai dit, la maturité n'est pas la perfection absolue, que ce soit dans la vie, une vie sans péché ou toute autre perfection. Nous visons la perfection en Christ, mais nous n'y arriverons jamais avant d'être avec lui. Et là, nous serons parfaits. Le salut est en trois parties. Nous sommes sauvés de nos péchés, on appelle ça la justification. Un jour, nous serons glorifiés, nous serons comme Jésus-Christ. Mais entre les deux, il y a toute une vie. Ça s'appelle la sanctification qui est progressive. Bon, on va en parler un peu plus tard, demain, ce soir ou demain, je ne me souviens pas. Il peut y avoir des passages à vide, même une traversée spirituelle du désert, un autre progrès vers la maturité spirituelle. Est-ce que vous avez jamais rencontré cela? Des moments où vous dites, mais je ne progresse pas. Ma vie chrétienne a tendance à devenir sèche. Est-ce que vous avez vécu ce que j'appelle ces moments dans le désert? Parfois, Dieu nous amène dans le désert, justement dans le but exprès de nous aider à croître et à arriver à plus de maturité pour nous permettre de compter davantage sur lui. Il nous amène dans le désert parce qu'il a envie de nous parler et de nous rencontrer là. Quand on est dans le désert, en général, on est dépourvu de beaucoup de choses et peut-être on est plus prêt à entendre Dieu. C'est l'expérience de bien des saints dans la Bible. Moïse, bon, il était dans un véritable désert, mais spirituellement aussi. Élie, lisez l'ancien, Jérémie, Ésaïe même. Lisez l'Ancien Testament surtout. Il y a des gens qui ont traversé de véritables déserts spirituels, mais Dieu leur a parlé. Et c'est ça qui est important. Mais donc, n'ayez pas peur du désert, à condition que le désert ne devienne votre expérience habituelle et permanente. Parce que là, vous allez stagner, vous n'allez pas progresser dans votre vie spirituelle. Mais le Seigneur va vous sortir du désert et vous sera encore plus fort. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des moments d'échec. Vous tombez dans votre vie chrétienne, vous tombez dans un péché quelconque, et cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Mais je vais vous rassurer, Dieu accepte l'échec. Il ne veut pas, mais il l'accepte parce qu'il nous accepte. Donc, si vous avez connu l'échec, de telle ou telle manière, j'espère que ce n'était pas trop grave quand même. Alors donc, Dieu vous relève et il vous met sur les rails. Et moi, j'appelle Dieu le grand releveur. Parce que quand c'est l'échec, il nous apprend quelque chose par cet échec, pour que nous ne retombions pas dans l'échec. Je ne sais pas quel philosophe grec a dit que celui qui trébuche sur la même pierre deux fois est un insensé. Donc, ça veut dire que si on apprend quelque chose par l'échec, c'est pour que nous ne tombions pas de nouveau dans le même échec. Dieu nous relève. Il nous remet sur les rails et nous allons de l'avant avec lui. C'est ça le Dieu que nous avons. C'est ça la relation que nous avons avec Dieu. Et que ce soit le cas pour chacun de nous. Je répète que nous sommes tous différents. Il n'y a pas deux personnes ici qui sont pareilles. Et le modèle de croissance ainsi que son rythme seront différents pour chaque enfant de Dieu. Donc, arrêtez les comparaisons. Ah, j'aimerais bien être comme toi. Ah, j'aimerais bien être... Non, vous n'êtes pas cette personne. Votre cheminement n'est pas le cheminement de cette personne. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes comme Dieu vous a créé. Et ce que Dieu a créé, il est prêt à prendre cela et à façonner cela pour que ce qu'il a créé ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. À condition de vouloir cette croissance et d'être comme Jésus-Christ. Dieu a un modèle de croissance et de développement pour toi qui n'est pas identique à celui d'un autre. Quand les enfants étaient jeunes, nous avons lu une série de livres que certains connaissent peut-être, qui s'appelle « Les Chroniques de Narnia ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si je devrais le dire parce qu'il y a deux personnes ici qui le connaissent, mais notre fils a dit... dans les années fac, que si vraiment il est resté fidèle, accroché au Seigneur, c'est en partie grâce au fait que nous avons lu les chroniques de Narnia. Et il a pu voir les conséquences de vivre avec ou sans Dieu. Bon, mais C.S. Lewis, qui a écrit les chroniques de Narnia, a dit que ce ne sont pas des allégories. Mais franchement, je trouve que Aslan, qui meurt pour la faute d'Edmond, ah, c'est non? Voilà, oui? Tu n'as pas lu? Oh non, non, mais écoute. Bon. Non, mais il y a trois films qui font sortir, mais je vous supplie, si vous achetez les Chroniques de Narnia, même en français, c'est mieux de lire en anglais parce que lui, il a un style qui est adorable. Mais si vous avez acheté, ne commencez pas par le neveu du magicien. Parce que maintenant, il y a des volumes où on a mis ça dans l'ordre chronologique qui, à mon avis, est archi stupide. C'est comme on lit la fin d'un livre d'Agatha Christie ou je ne sais pas... Et on connaît la fin avant de commencer l'histoire. Donc, lisez d'abord Le Lion et la Sorcière Blanche, ou Le Lion, la Sorcière et l'Armoire, etc. C'est le premier film, deuxième film, Prince Caspian, troisième film, La Belle Aurore, etc. Bon, les films, heureusement, sortent dans le bon ordre. Mais c'est riche. Oui, c'est l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Donc, chaque livre a été écrit. Et le premier, c'est Le Lion et la Sorcière Blanche, ou Le Lion, l'Armoire et la Sorcière, etc. Notre petite fille, qui a 16 ans maintenant, vient de terminer de lire les Chroniques de Narnia en anglais. C'est un écrivain, c'est la fille de Stephen, et... un de ses auteurs préférés, c'est C.S. Lewis. Et ce livre l'a beaucoup touché aussi. Nous l'avons lu 5 fois avec nos enfants. Bon, mais voilà. Ça, c'est l'arrière-plan. Ce que je voulais dire, c'est que dans le premier livre, Edward faute. Il fait une faute très, très, très grave. Et pour cela, Aslan, qui représente la fille du grand roi, etc., a dû mourir. Et dans la foulée, donc, tour, l'ordre revient, etc. Mais l'un des quatre enfants, qui, frères et sœurs, qui sont ensemble dans cette histoire, qui deviennent roi et reine de Narnia par la suite, l'un d'eux dit, mais et Edmond, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et Aslan a dit, ça c'est l'histoire d'Edmond, ce n'est pas ton histoire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Pierre demande à Jésus, et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus a dit, ce n'est pas de tes oignons. Non, mais ça, c'est une traduction libre. Il a dit, non, ne te soucie pas de Pierre, toi, suis-moi. Ta responsabilité, c'est de me suivre. Nous sommes tous différents, donc pas de modèle dans le sens qu'il faut que je sois comme cette personne-là. Soyez la personne, devenez la personne que Dieu veut que vous deveniez. Juste une chose à noter. La croissance, la maturité et la plénitude en Christ font partie de notre salut et sont un processus continuel qui dure pendant toute notre vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible appelle cela la sanctification. Il y aura des moments de croissance suivis d'un temps sur le plateau, des moments quand vous aurez l'impression de ne pas avancer. Mais ne vous découragez pas, restez avec Dieu. Cela ne devrait pas vous angoisser parce qu'à travers les années, la direction est toujours vers le haut. Nous commençons ici, un bébé en Christ, et un jour nous serons glorifiés quand nous serons avec Jésus. Mais entre les deux, la tendance est de plus en plus haut, mais c'est plutôt en dents de scie. Mais ça monte à travers les années. Deuxième partie, je voulais mentionner dans ce message, après avoir donc parlé de ce que nous voulons dire par la croissance vers la maturité spirituelle. Hélas, le fait est que la croissance vers la maturité en Christ, que Dieu voulait, soit normale, n'est pas normale pour l'être humain, comme Dieu avait voulu. Et pourquoi est-ce que la croissance vers la vie, dans la vie spirituelle, n'est pas normale? Pourquoi est-ce que ce n'est pas normal pour les êtres humains? Savez-vous pourquoi? Oui, mais élaborez un petit peu, oui. Non, le péché, ce n'est pas toujours la réponse à toutes les questions, mais il est là-dedans. C'est comme Jésus. Alors, en école dimanche, Jésus, c'est toujours la bonne réponse. Mais, la bonne réponse, mais enfin, non. Mais élaborez. Pourquoi le péché? Ce n'est pas normal. Bon, ben, je vais expliquer. Dieu nous a créés pour une relation. D'abord, pour une relation avec lui. Nous sommes créés à son image, d'après Genèse 1, 26. Dieu a dit, j'ai créé l'homme selon notre ressemblance. Notre, qui est le nôtre, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu trinitaire. Ensuite, il a créé l'homme et la femme pour avoir une relation avec les autres, de belles relations. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé Adam seul. Il a créé un vis-à-vis pour Adam pour qu'ils se connaissent. La relationnelle est inhérente dans le caractère de Dieu lui-même. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a déjà une relation entre le Dieu qui est la Trinité. Et la nature de Dieu est relationnelle et il veut une relationnelle. Pardon, une relation personnelle avec nous, avec toi, avec chacun ici. Il veut cette relation. Si vous ne connaissez pas cette relation avec Jésus-Christ, je vous en supplie, avant de quitter ce lieu, venez voir l'un des responsables et acceptez d'entrer dans une relation avec Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dieu a placé Adam et Ève dans un cadre merveilleux où ils pouvaient jouir de leur belle relation avec Dieu et la faire épanouir. Il leur a donné le choix d'aimer Dieu et de lui désobéir. Et la capacité de choisir fait partie de notre, de l'image de Dieu en nous. Alors, nous sommes comme Dieu, à la différence de toutes les autres créatures, nous sommes comme Dieu dans le sens que nous avons la capacité de choisir le bien ou le mal. Cette belle relation a été brisée par le péché. OK, donc, voilà, on y arrive. Merci. Nos péchés de nos premiers parents, Adam et Ève. Là, on lit dans Genèse 3. Je ne vais pas le lire, mais vous le connaissez peut-être. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa tactique? Il a semé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève. Le doute quant à la bonté et la bienveillance de Dieu à leur égard. Genèse 3, 4 et 5. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de ce fruit? Ah, Dieu, il sait, il vous empêche d'être comme lui, parce qu'il sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme lui. Alors, c'est vrai qu'ils auraient une certaine connaissance, mais une connaissance que Dieu aurait préféré qu'il n'ait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le but de Satan, donc, était de briser le beau plan de Dieu pour l'homme. Il voulait arrêter l'homme dans sa croissance, dans sa relation avec Dieu et sa relation avec tous. Et en voyant toutes les relations brisées autour de nous aujourd'hui, on peut dire que Satan a bien réussi son coup. Il a bien réussi son coup. Pour le moment. Parce qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. Le doute que Satan a semé en Adam et Ève a porté son fruit dans le choix délibéré de l'homme de choisir contre la volonté de Dieu en prenant ce fruit, le fruit d'un arbre, le seul qui était défendu. Un test que Dieu avait donné à l'homme. Et ils ont mangé de ce fruit. Satan a dit, ah non, vous ne mourrez pas si vous mangez. Ah non, Ève a dit, non, on ne peut pas manger ça parce que nous mourrons. Ah non, vous ne mourrez pas. Alors, elle a croqué dans, c'est pas une pomme, hein, dans ce fruit, et elle est tombée morte raide, n'est-ce pas? Mais non. C'est ça. Satan, il met toujours un peu de vérité dans ce qu'il dit. Elle n'est pas morte, mais la mort est entrée en elle. C'est ça le problème. Et elle n'en était pas consciente à ce moment-là. Satan, il mélange toujours un peu de vérité avec son mensonge pour que le mensonge passe. Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Il est rusé. Le résultat, comme vous le savez, fut terrible. L'homme et la femme ont été séparés de Dieu spirituellement et même physiquement. Ils sont chassés du jardin d'Éden, le lieu que Dieu avait créé pour l'épanouissement de l'homme, le lieu d'une relation parfaite, le lieu de la vie. Et la chute dans le péché d'Adam et Ève avait des conséquences graves. Désormais, nous sommes tous disposés à pécher, à vivre dans l'indépendance humaine. Voilà, ça, c'est le cri des gens de notre époque. L'indépendance! Nous voulons être libres de faire ce que nous voulons faire. Et Dieu dit, non, mais il y a quand même des contraintes. Et les gens disent, mais je ne veux pas de contraintes. Je veux être libre. Alors encore, c'est une leurre que Satan. Nous ne sommes plus soumis à la volonté de Dieu. Nous voulons l'indépendance à 100%. Nous sommes devenus coupables devant Dieu et nous méritons la punition de nos fautes par nos péchés. Nous sommes corrompus moralement, spirituellement et physiquement, ce qui entraîne la maladie et la mort. Personne ici ne pourra vivre éternellement dans le corps que vous avez maintenant, parce que ce corps est voué à mourir, parce que votre corps est corrompu. Vous vous sentez dans la force de l'âge. Moi, à mon âge, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit peu d'énergie qui me reste. Bon, mais je sais qu'un jour, ça va finir. Ça va finir. Donc, nous sommes corrompus moralement. Je ne suis pas parfait. Demandez à ma femme. Spirituellement, je fais des fautes, et physiquement, je vais mourir. Nous avons du mal à comprendre l'étendue de cette déchéance créée par la chute. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais connu autre chose que la corruption morale, la corruption spirituelle et la corruption physique. Nous sommes tellement habitués à ce monde qui est corrompu que pour nous, c'est normal. C'est un peu comme un cochon qui se roule dans un bourbier. Il n'a pas connu autre chose et il pense que c'est normal. Pour nous, vous voulez aller avec le cochon et rouler dans la bourbier? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pour le cochon, c'est tout à fait normal. On a essayé, paraît-il, d'enlever le cochon, de le nettoyer, lui faire donner un bain, de mettre un ruban autour du cou, etc. Mais il retourne, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Il faut un changement dramatique pour qu'on souhaite, qu'on désire autre chose. Et Dieu est prêt à faire cela pour nous. Finalement, la mort éternelle nous attend, et la mort éternelle, c'est la séparation à jamais avec Dieu. Éphésiens 2 nous dit, « Vous étiez morts par vos fautes et vos péchés. » Alors, je résume. La croissance vers la maturité n'est pas donc normale pour l'homme qui est pécheur et séparé de Dieu. Alors, que faire? Mais heureusement, Dieu n'a pas baissé les bras. Il a trouvé une solution, la seule. Pour rétablir la relation brisée avec l'homme, Dieu a envoyé son Fils pour prendre la punition que nous méritons par nos péchés. Ça, vous savez tous. Mais que ce ne soit jamais banal, parce que Jésus a payé le prix de votre péché. C'est votre colère qui l'a cloué à la croix. C'est votre tricherie qui l'a cloué à la croix. Les petites choses qui... votre mensonge, des fois, qui ont cloué à la croix. Et quand je tombe dans un péché quelconque, on dit, mais je ne suis pas un grand, grand pécheur, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais volé dans la caisse de l'église ou autre chose comme ça, mais j'ai fait des fautes. Et je me dis, mais pour ça, Jésus a dû mourir. Et Jésus est mort pour que nous puissions être, nous ayons le pardon de ses péchés. Jésus, Fils de Dieu, est pleinement homme, sans péché, est mort pour que nous ayons la vie, pour rétablir la relation brisée avec l'homme, parce que Dieu voulait tellement rentrer dans une relation avec sa création, l'homme et la femme qui a créé. Alors, Jean 3, 16 et bien d'autres passages, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort à notre place et donc a pris notre péché. Je lis Romains chapitre 5, versets 6 à 8, parce que c'est tellement clair. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, parce que nous étions enfoncés dans le péché, Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être. Quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que nous méritons cela? Non. C'est par la grâce de Dieu. Et Dieu l'a fait pour nous. Nous pouvons être sauvés de nos péchés si nous acceptons Jésus et son sacrifice pour nous. Ce n'est pas grâce, ce n'est pas par nos œuvres, comme dit Paul dans Éphésiens. Voilà, je voulais juste terminer en parlant de l'importance d'entrer dans cette relation avec Dieu, qui est tellement vitale. Et quand je dis vitale, c'est parce que c'est vraiment un cas de vie ou de mort éternelle. Entrer dans une relation avec Dieu veut dire accepter Jésus comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Attention, Jésus est non seulement sauveur, Jésus est Seigneur. Seulement, il y a des gens qui sont d'accord pour que Jésus soit leur sauveur. Ils veulent être sauvés de leurs péchés. Ils voulaient avoir en poche le billet pour le ciel, pour ainsi dire. Mais ils ne veulent pas que Jésus soit le Seigneur. Celui qui dit « Seigneur » veut dire « obéissance ». Et il y en a parmi nous qui ne sont pas prêts à aller jusque-là. Nous voulons les bénéfices de son salut sans les obligations, parce que non, le salut est un don gratuit. Nous ne pouvons pas l'acheter ou mériter ou faire quoi que ce soit pour avoir le salut. Mais quand on est sauvé par la grâce de Dieu, Jésus devient notre Seigneur. Quand j'ai dit oui à ma femme devant le pasteur, parce qu'aux États-Unis, on est marié devant un pasteur très souvent, et quand j'ai dit oui, je t'accepte comme ma femme, j'ai accepté les, disons, je n'aime pas dire contraintes, parce que ce n'était pas des contraintes, mais j'ai accepté les conditions de vivre avec elle. Je ne devais plus vivre pour moi-même. Et ça posait problème, parce que je n'avais pas l'habitude de penser à quelqu'un de si proche de moi. Et je devais quand même modifier certaines choses dans ma vie pour prendre en considération ma femme. Mais quand j'ai dit oui à Joyce et elle a dit oui à moi, il y avait un engagement. Et quand nous disons oui à Jésus-Christ, nous nous engageons à le suivre. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, il prêche le mauvais évangile. Nous devons être des disciples de Jésus-Christ et le suivre. Voilà. Je me suis éloigné un peu de mes notes, mais bon, je pense que j'ai dit. En plus, accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, je dis, est un engagement. Et je n'ai pas entendu ça dans mon église quand je grandissais, qu'il devait être mon Seigneur. Je pense que ça devait être prêché, mais on a martelé tellement qu'il devait être... accepter Jésus comme ton sauveur, accepter Jésus dans ta vie, dans ton cœur, etc., que l'idée de Seigneur était un peu escamotée. C'est un engagement à aimer Dieu de tout notre être. Tu aimeras le Seigneur Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, a dit Jésus. C'est un peu, et comme j'ai dit, c'est comme un mariage où on s'engage vraiment. Et toute la richesse de notre relation avec Dieu vient du fait que c'est un engagement. C'est là la richesse de notre relation. Parce que nous nous engageons avec Dieu et Dieu s'engage avec nous. Ça va dans les deux sens. Et c'est très important. Trop de chrétiens semblent ne pas jouir de la profondeur et de la richesse de leur relation avec Dieu. Et à cause de cela, il n'y a pas de vraie croissance dans leur relation avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas vraiment le Seigneur. Il est juste le Sauveur. Il est le passeport pour le ciel et c'est tout. Et ainsi, leur amour ne peut pas croître de jour en jour. Ceci est le reflet de notre époque aussi. Trop de relations de nos jours sont brèves et superficielles. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Est-ce que vous avez un compte Facebook? Hein? Moi, j'ai un compte Facebook. Il y en a deux. Oh, d'accord. Non, mais c'est comme un compte Facebook. Moi, je ne mets jamais quoi que ce soit sur Facebook. Joyce, je ne parle pas le dire, mais elle m'a interdit d'avoir un compte Facebook. Parce qu'elle a dit, si tu te mets à Facebook, je ne te verrai plus. Elle me connaît, je suis un animal social. Et elle ne voulait pas, elle dit, non, mais je ne te verrai plus. Bon. Non, mais on s'est mis d'accord. Elle n'a pas pris le rouleau de pâtissier pour dire que tu... Non, pas du tout. Mais j'ai dit d'accord. Mais je voulais suivre donc un couple qui avait des problèmes avec un bébé. Et le seul moyen était de lire ce qu'ils mettaient sur Facebook. Donc, j'ai ouvert un compte sur Facebook. Maintenant, j'ai... deux ou trois petits-enfants et une autre personne. Mais je ne mets jamais rien sur Facebook et je ne consulte pratiquement jamais Facebook. Mais comment sont les relations sur Facebook? Comment est-ce que vous les qualifieriez? Profondes? Non, superficielles. Et c'est ça notre époque. Est-ce que vous avez un compte Twitter, comme Donald Trump? Instagram? Non, ce sont des... en quelque sorte, une façon d'avoir une relation, mais ce n'est pas une vraie relation. Ce que nous avons par Facebook, Twitter ou Instagram. Mais Dieu veut une relation profonde avec son enfant. D'ailleurs, je vous apprends quelque chose. Dieu n'a pas de compte Facebook. Et j'ai vérifié. J'ai cherché sur Facebook pour voir si Dieu avait un compte. Il n'en a pas. J'ai trouvé un Dieu. Ça doit être une petite Vietnamienne qui s'appelle, son prénom est Dieu. Dieu Lê, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle est vietnamienne parce que tous ses contacts avaient des noms vietnamiens. Bon. Mais mon Dieu n'a pas de compte Facebook, mais il m'a laissé beaucoup, beaucoup de choses à lire, à approfondir dans ma vie. Et c'est là-dedans, et c'est dans ma relation avec lui, c'est dans les moments que je passe avec lui chaque jour, c'est dans les moments de prière et de méditation avec lui. Dépassons le stade relation Facebook avec Dieu. Enfin, cette vie, cette relation, cet engagement n'est pas simplement faire des choses pour essayer de plaire à Dieu. C'est croître dans notre être, dans ce que nous sommes. Nous allons en parler davantage ce soir ou demain. Je termine, enfin. Depuis le péché de nos premiers parents, Dieu cherche à rétablir une relation profonde, mais qui était perdue, avec l'homme et la femme qu'il a créés. Il veut que son enfant progresse dans une croissance continuelle avec lui. Et Dieu s'intéresse davantage à ce que nous sommes en nous-mêmes, la qualité de notre vie et de notre relation avec lui. Il s'intéresse plus à cela qu'à ce que nous faisons. En tout cas, ce que nous sommes va déterminer ce que nous faisons. Mais nous, nous sommes activistes, nous voulons faire. Et Dieu veut... c'est comment êtes-vous? Comment est ta relation avec moi? Il s'intéresse à nos attitudes. Il s'intéresse beaucoup à nos motivations. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui pour prêcher? Je me pose la question. Est-ce que c'est parce que ça me fait plaisir d'avoir une trentaine, une quarantaine de personnes qui me regardent et qui m'écoutent? Je pense que ça pourrait être le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. J'ai accepté une invitation, c'est par qui me suis imposé donc, dans ce week-end ensemble. Mais Dieu s'intéresse à nos motivations. Et quand nos attitudes et nos motivations plaisent à Dieu, c'est alors que nous entamons une véritable croissance dans la maturité en Christ. J'arrête là pour ce matin. Excusez-moi si j'ai débordé de quelques minutes, mais... que Dieu nous aide. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris ou vous avez besoin d'explications. Mais je laisse la parole donc à Laura.
L-O-A-O-R-A-H. Merci David.